VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le procès devant les assises d'Abidjan de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité a été reporté aujourd'hui au 10 octobre prochain à la demande de l'accusé et de ses avocats. Madame Gbagbo, 67 ans, et ses avocats ne se sont pas présentés au procès. Aujourd'hui, l'accusé disant avoir besoin de repos. L'audience reprendra le 10 octobre 2016, a déclaré le président de la Cour, Kwadio Bouachi, en suspendant la séance d'aujourd'hui. Le procès de l'ex-première dame avait repris le 19 juillet après 2 semaines de suspension en raison de malaise de Madame Gbagbo. La Cour d'assises d'Abidjan juge l'ex-première dame depuis le 31 mai pour crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle congolaise, a demandé aux autorités de la RDC de cesser de monter des dossiers judiciaires contre les adversaires politiques du président Joseph Kabila. Pour sa part, l'opposant historique Étienne Tshisekedi a exigé hier la tenue de la présidentielle d'ici à la fin de l'année et le départ du président Kabila le 20 décembre. C'était devant des dizaines de milliers de personnes venues assister à son premier meeting depuis son retour au pays. Le reportage de Gino Reema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans son discours, le président du Rassemblement des forces politiques et sociales a insisté sur l'organisation des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Étienne Tshisekedi.
Je crois bien que si le 19 septembre, la CENI ne convoquait pas les corps électoraux, ça sera qualifié d'une haute trahison, trahison sur la personne que vous connaissez bien. Et ça sera le début des préparatifs de son préavis qui va s'arrêter le 19 décembre
2016. Au sujet de la facilitation au dialogue, le Sphinx de Limété a confirmé la récusation de Dem Kodjo et demande son remplacement.
Nous avons constaté que le facilitateur n'est plus net. Il est un vrai kabiliste. Voilà pourquoi le rassemblement ne lui fait plus confiance. Nous avons parlé aux instances de l'Union africaine pour qu'on nous trouve quelqu'un qui bénéficie de la confiance des deux parties.
En réaction, les députés Albert Fabrice Puella pensent que le message du président Étienne Tshisekedi est bien capté par les populations quinoises.
Le message est passé, il n'y aura pas de dialogue tant que ce sera avec Dem Kodjo. Il n'y aura pas de dialogue tant que tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers d'opinion ne seront pas libérés. Il n'y aura pas de dialogue tant que la RTNC sera l'instrument entre les mains d'un seul individu. Nous ne pouvons pas tolérer que la République démocratique du Congo soit entre les mains d'un seul individu. Vous avez fait votre mandat.
Rappelons que toutes les forces de l'opposition étaient présentes à ces meetings, à l'exception du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Depuis Kinshasa, Gino Reema pour VOA Afrique.
Le président sortant du Gabon, Ali Bongo Ondimba, estime que des dérapages ou des violences sont à craindre à l'issue de l'élection présidentielle du 27 août, en raison, selon lui, de la stratégie de l'opposition qui conteste sa candidature et son éligibilité. M. Bongo a qualifié de baliverne les arguments disant qu'il est un enfant du Nigeria adopté par son père, l'ex-président Omar Bongo.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Série de VOA Afrique sur les membres des familles présidentielles africaines. Nous commençons par le Sénégal où, comme dans plusieurs autres pays d'Afrique, des proches de chefs d'État occupent des postes de responsabilité. Malgré les critiques de l'opposition, la belle famille, le frère ou encore d'autres membres de la famille du président Macky Sall restent aux commandes dans des secteurs clés. Pour sa part, la majorité présidentielle estime qu'il n'y a rien de choquant vu que les personnes concernées sont compétentes et militent dans le parti. Plus de détails avec notre correspondante à Dakar, Sokhna Nata Mbaye.
Le 23 juin 2011, les Sénégalais se sont farouchement opposés au projet de dévolution monarchique que voulait imposer Abdoulaye Wade, placer son fils Karim Wade à la vice-présidence pour qu'il puisse le remplacer plus tard. Plusieurs années après l'arrivée de Macky Sall, l'histoire semble bégayer. Il n'y a pas de fils cette fois-ci, mais ce sont les beaux-frères, les frères et plusieurs proches du président qui occupent des postes de responsabilité. Détié Fall, vice-président du parti de l'opposition Réoumi, dirigé par l'ancien premier ministre Idrissa Seck.
C'est dommage, après cette page tournée, qu'on assiste avec le président Macky Sall, qui en son temps était à nos côtés, qu'on assiste avec lui cette forte présence de sa famille dans la gestion des affaires publiques.
Pour Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, cette pratique n'est pas une exclusivité africaine.
Lorsque Kennedy fut président, son frère Bob était l'attorney général, ministre de la Justice, et son autre frère, Ed, était sénateur du Massachusetts. Mitterrand également avec son fils qui était envoyé spécial pour l'Afrique.
Toutefois, un constat est là. Avec le régime de Macky Sall, certains observateurs trouvent indécent le nombre de ses proches à qui l'on a confié la gestion des affaires publiques.
De toute évidence, l'homme a très certainement une faiblesse par rapport aux membres de sa famille. Donc il n'arrive pas à circonscrire la présence dans l'appareil d'État. Et je crois que cela peut le desservir. Parce que demain, lorsqu'il ne sera pas au pouvoir, tous ceux qui voudront l'atteindre pourront certainement passer par ses proches pour l'atteindre.
Détié Fall va plus loin, citant le nom d'Aliou Sall, frère du président Sall.
Il se trouve que tous tes membres de ta famille sont à tes côtés et au premier plan pour la gestion des affaires publiques, ça pose un problème d'équité et de justice. Équité dans la mesure où certains d'entre eux, notamment son frère Germain, de même père et de même mère, ont été cités dans des scandales. Son frère Aliou Sall a été cité dans l'affaire Petrotim. Mais depuis lors, il n'y a aucune suite, en tout cas judiciaire, qui a été donnée à cela.
Des accusations infondées selon Abdou Mbow, membre de l'Alliance pour la République APR, parti au pouvoir et vice-président à l'Assemblée nationale.
Citer quelqu'un dans un dossier ne va pas dire qu'il est coupable. Lui-même, personnellement, il a eu à donner des éléments de réponse, des éléments d'information, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore quelqu'un qui a saisi la justice pour dire que voilà telle ou telle autre chose. Moi, je pense quand même que c'est trop simple de citer des gens dans des soi-disant scandales ou autre chose.
Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan affiche clairement son intention de resserrer son contrôle sur l'armée après le putsch manqué du 15 juillet qui avait fait plus de 200 morts. Plus de détails avec Idriss Fall.
Un décret officiel a annoncé hier des limogeages supplémentaires de quelques 1400 militaires, dont Ali Yazici, aide de camp et proche du président Erdogan. Toutes les écoles militaires du pays seront fermées et remplacées par une nouvelle université militaire. Les hôpitaux militaires sont mis sous contrôle du ministère de la Santé. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que la police sera maintenant équipée d'armes lourdes pour contrebalancer le pouvoir de l'armée. Des civils vont participer au Conseil militaire suprême et un projet de réforme constitutionnelle est envisagé pour contrôler directement les chefs d'état-major. L'armée, considérée comme la gardienne de la République et de sa laïcité, est ressortie humiliée après le coup d'État manqué. Jeudi dernier, 149 généraux, plus de 1100 officiers et 436 officiers subalternes ont été démis pour leur lien présumé avec le prédicateur Fethullah Gulen, qui vit en exil aux États-Unis. Ankara l'accuse d'avoir ourdi le coup d'État, ce que dément vigoureusement M. Gulen.
Nigeria, Interpol, l'organisation de coopération policière internationale, a annoncé aujourd'hui l'arrestation à Port-Harcourt dans le sud du pays d'un homme soupçonné d'avoir escroqué en ligne des centaines de victimes dans le monde pour des dizaines de millions de dollars. Le Nigérian âgé de 40 ans et connu sous le nom de Mike serait dernier des arnaques totalisant plus de 60 millions de dollars et impliquant des centaines de victimes dans le monde entier, a indiqué Interpol dans un communiqué. Dans l'un des dossiers, une cible a été amenée à verser 15 400 000 dollars, ajoute le texte. L'arrestation du suspect a été menée avec le soutien de l'Agence nigériane de lutte contre la corruption, la Commission de lutte contre les délits économiques et financiers. Le réseau se serait infiltré dans les comptes de courrier électronique de petites et moyennes entreprises dans le monde, notamment en Australie, au Canada et aux États-Unis. Interpol a précisé que le réseau démantelé comprenait au moins une quarantaine de membres au Nigeria, en Malaisie et en Afrique du Sud, qui fournissaient les logiciels malveillants et commettaient les fraudes. Le suspect avait aussi des contacts pour blanchir de l'argent en Chine, en Europe et aux États-Unis. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.